En passant, il y a une autre annonce que j'ai oubliée, c'est que le cours pour les nouveaux membres, ceux qui veulent devenir membres de l'Église, il va commencer le dimanche 17 juillet. Et c'est Jean-Pierre Metabanzulu qui va être le professeur principal. Je vais lui demander juste de lever la main pour que vous voyez c'est qui. Et donc, il y en a qui se sont déjà, qui ont déjà mis leur nom. On va aussi vous recontacter, mais il y a peut-être des gens qui en entendent parler pour la première fois. Vous pouvez faire un parcours de 4 ou 5 cours pour apprendre qu'est-ce que c'est l'Église Oasis, en quoi consiste de devenir membre. Alors, ce matin, on poursuit, comme j'ai dit, notre exploration de l'ADN. Ah oui, je vois le problème. Je vais peut-être prendre le micro. Ah oui, oui, oui. On poursuit notre exploration de nos racines spirituelles dans l'Alliance chrétienne et missionnaire. Et la semaine passée, vous vous souvenez que... La prière missionnaire et visionnaire que nous avons considéré ensemble, que nous avons prié ensemble. Alors, maintenant que vous êtes habitués, on va la lire ensemble. 1, 2, 3, go. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur, viens nous transformer, sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission, est capable de nous multiplier partout. Amen. Une prière que vous pouvez prier à la maison, quotidiennement. Et aujourd'hui, nous allons étudier un autre grand sujet, c'est la façon que le fondateur du mouvement, Albert Simpson, présentait l'Évangile, comment il comprenait le message, la vérité essentielle du christianisme. Et il appelait cette présentation, il appelait l'Évangile dans sa plénitude. L'Évangile dans sa plénitude. Et en fait, c'est parce que lui, il parlait anglais et l'expression anglaise, c'était un peu différent. C'était « the fourfold gospel », littéralement, l'Évangile dans ses 4 volets, ce qui est beaucoup moins poétique que l'Évangile dans sa plénitude. J'aime mieux la traduction française qui, en fait, décrit même très bien sa pensée ainsi que la pensée de la Bible elle-même. Et cette pensée est ceci, c'est que si l'Évangile que nous prêchons est centré sur Jésus, rien que sur Jésus, et sur Jésus tout entier, nous allons rester dans la vérité, nous allons conduire nos auditeurs vers celui qui est la vérité, et nous allons tous bénéficier de tout ce que Jésus a à offrir, car nous allons bénéficier de sa personne même. Bon, c'est une très longue phrase, mais ça veut dire, l'Évangile, c'est Jésus. C'est à propos de Jésus, c'est d'entrer en relation avec lui, c'est de le recevoir et de vivre de lui. Et si on se concentre là-dessus, ça va être merveilleux. On va aller de victoire en victoire. Donc, je vais quand même relire cette phrase qui vient de moi, mais ça vient de moi, mais c'est après mes lectures de ce que prêchaient les premiers missionnaires Alliance. Si l'Évangile que nous prêchons est centré sur Jésus, rien que sur Jésus, et sur Jésus tout entier, nous allons rester dans la vérité, nous allons conduire nos auditeurs vers celui qui est la vérité, nous allons tous bénéficier de tout ce qu'il a à offrir, parce que nous allons bénéficier de sa personne même. Amen?
Amen.
merci beaucoup pour cet enthousiasme. Alors, les enfants, vous, là, vous avez dans votre cahier, vous avez 4 feuilles de travail pour le thème de ce matin. Les 2 premières feuilles sont, il y a le logo de l'Alliance chrétienne et missionnaire dessus, il y a un dessin. Et dans ce que je vais dire, je vais expliquer la signification. Est-ce que tous les enfants ont leur cahier? Oui? Il en manque quelques-uns, je pense. Hein? J'en vois un ici qui est Andy, est-ce que tu as un cahier avec toi? Non, il ne veut pas? Il peut en avoir un. Ah, c'est vrai. OK. Excusez-moi. C'est vrai. Les J2, vous n'avez pas de cahier, mais il faut écouter. Alors, la première feuille, c'est un vitrail. Le vitrail, vous avez à le décorer. Et la deuxième feuille, c'est des lignes entre les symboles et leur signification. Donc, vous m'écoutez, puis vous faites les lignes. Oui. La troisième feuille, ça porte sur la vie d'Albert Simpson, le missionnaire. Et je crois que j'ai une photo de lui quelque part. Oui, c'est lui. La troisième feuille, c'est à propos de ce monsieur-là. Et vous devez écrire, les enfants, 3 choses sur sa vie. Donc, quand je vous dis de m'écouter sur la vie de M. Simpson, vous écoutez, puis 3 choses que vous apprenez, vous les écrivez n'importe lesquelles. Ça peut être oui. Puis la quatrième feuille, pour ceux qui sont bien avancés, bien, il y a un verset biblique à décoder avec comme des symboles qui sont des lettres. Vous allez voir. Ça va, les enfants? Est-ce que vous comprenez? Christian, il comprend. Mais est-ce que les enfants comprennent? C'est bon? OK. Parfait. Seigneur, guide-nous maintenant. Alors, vous savez, Cheryl et moi, on est mariés depuis 21 ans. Mais, oui, hein? Mais saviez-vous qu'on était amis pendant 15 ans avant de nous marier? 15 ans qu'on se connaissait avant de nous marier. Alors, c'est une longue histoire que je ne vous raconterai pas ce matin, mais une chose que je peux vous dire, c'est qu'avant qu'on se marie, ma bonne amie Cheryl me prêtait quand même assez souvent sa voiture. Et je l'appréciais beaucoup, mais quand on s'est marié, sa voiture est devenue ma voiture. OK? Alors, quand on s'est marié, autrement dit, tout ce qui appartenait à Cheryl est devenu mien et tout ce qui m'appartenait est devenu sien. Moi, j'ai hérité d'une voiture et de plusieurs beaux meubles et de plusieurs choses très appréciées. Elle a hérité de son côté d'une bibliothèque théologique, puis c'est à peu près tout. J'en suis sorti gagnant. Et un chauffeur, oui. Mais bon, c'est pas l'objet de mon propos. L'objet de mon propos, c'est de parler de l'Évangile. C'est que l'Évangile, dans sa plénitude, nous dit que Jésus nous invite pas d'abord à recevoir des bienfaits de lui, même le salut, qui est un grand bienfait qu'on reçoit de lui, mais il nous invite à le recevoir lui, et avec lui, tous ses bienfaits. Et le mariage nous aide un peu à comprendre ça. Recevoir Christ, c'est un peu comme s'unir à une autre personne pour la vie. Bien, ça l'est. Le mariage est en fait un symbole limité de la conversion à Christ, de l'Évangile dans sa plénitude. Les bienfaits de Christ deviennent vraiment nôtres, comme dans un mariage. Alors, la Bible, elle, nous dit cela. Ce qui est enseigné dans l'Alliance n'a pas été inventé par M. Simpson. Déjà, les apôtres de Jésus-Christ, c'est ce qu'ils expérimentaient et prêchaient à partir de leur expérience. Voici ce que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Colosse. Il dit, les enfants, non, je dis rien aux enfants. Ça, c'est pour les adultes et les enfants. Le Fils de Dieu existe avant toute chose et tout subsiste en lui. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Ça, c'est Paul qui s'inquiétait que les Colossiens, les chrétiens de Colosse, étaient attirés vers un évangile où d'autres choses que Christ étaient mises en valeur. Et toute cette épître, qui est courte et qui vaut la peine d'être lue, nous rappelle que Christ est tout. Si on a Christ, on a tout. Et on n'a pas à être intimidé ou distrait par d'autres richesses, par d'autres philosophies. Alors, il dit ici, vous avez tout pleinement en lui. Si tu as Christ, tu as tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait dire, j'ai Christ dans mon cœur? Quelqu'un, pouvez-vous lever la main? C'est comme un témoignage. Oui, si tu as Christ, tu as tout. Tu as tout. La chose qu'il dit avant, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire, Dieu lui-même, dans toute sa plénitude, est en Christ qui est en toi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et la première chose qu'il dit dans la première ligne, le Christ, ben, c'est-à-dire le Fils de Dieu, avant qu'il s'incarne et après, mais il a existé avant toute chose et tout subsiste en lui. C'est-à-dire, la création même, le voisin qui est à côté de toi dans l'Église, tout est gardé en vie par Christ. Donc, c'est Dieu qui a créé à travers le Fils. De la même manière, c'est le Père qui garde en subsistance toutes les choses qui ont été créées à travers le Fils. Et l'Esprit Saint n'est pas loin non plus. Donc, le Christ qui habite en nous est aussi le Dieu cosmique, le Dieu créateur, le Dieu qui fait subsister telle chose. Oh, quelle gloire, quelle merveille que notre Évangile, que ce Christ que nous avons en nous, il nous donne tout parce qu'il est celui qui est tout en tous. Amen. Paul va dire aux Corinthiens que grâce à Dieu, vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libération. Notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libération. Si je deviens uni par Jésus, par la foi, si j'ai reçu Christ dans ma vie, eh bien, je suis en quelque sorte plongé en lui, puis lui, il est comme plongé en moi. C'est comme une... Et on va voir ça quand on va baptiser nos candidats. C'est ce qu'ils vont vivre par le signe. Ils vont nous démontrer cela visiblement. Ils sont comme des bouteilles vides plongées dans l'océan d'amour qui est Christ. Ils vont être dans l'océan, mais l'océan va rentrer dans eux. OK, est-ce que c'est pas merveilleux? Et tout ce qui appartient à Jésus devient leur. Jésus est sagesse. Il est plein de sagesse divine. Elle devient nôtre. Il est justice. Il a parfaitement obéi à la volonté de Dieu. Il est mort à la croix pour donner la justice pour tous les pécheurs. Nous, cette justice devient nôtre. Il est parfaitement saint, ça devient nôtre. il est parfaitement libre, ça devient mien aussi, parce que je suis moi aussi plongé dans cette rivière, dans cet océan d'amour. Alors, j'aimerais te parler personnellement ce matin, si tu es venu ici avec des doutes, si tu es venu ici avec des inquiétudes, peut-être que tu as des souffrances physiques à cause d'une maladie. Tu vis peut-être des gros soucis financiers ou autres. Dis à Jésus maintenant, je te donne mes problèmes, Jésus. Toi, remplis-moi de toi-même. Remplis-moi de tes solutions. Jésus, tu es tout en moi. Dis-le-lui maintenant. Dis-le-lui maintenant. Alors, on va parler maintenant du logo du mouvement. Il y a 4 symboles dans le logo qui représentent l'Évangile dans sa plénitude. Et en anglais, il disait au départ l'Évangile avec ses 4 volets. Alors, chacun des symboles, il y en a 4, hein, symbolise cette plénitude et symbolise un bienfait particulier. Mais vous allez me dire, mais ça ne me paraît pas beaucoup, ça, 4 bénédictions que Jésus me donne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Michel nous a donné une série sur les bienfaits qu'on a reçus à la croix, et il y avait plus que 4. Alors oui, il y en a beaucoup plus que 4 des bienfaits que Jésus nous donne. Alléluia! Ouais, OK. Mais les 4, c'est un peu comme des chapitres avec plusieurs sous-bénédictions dedans. Donc, on pourrait dire que les 4 englobent d'autres bénédictions. Alors, les enfants, vous pouvez suivre parce que vous avez des feuilles qui ont rapport avec le logo. Alors, en haut, vous voyez quoi? Est-ce qu'il y a un enfant qui aimerait répondre? En haut, il y a un symbole. Qu'est-ce que vous voyez? Une croix, oui, exactement. Une croix qui symbolise Jésus sauveur. Donc, sauveur, référence en particulier au fait que nous recevons les bienfaits de la croix elle-même. Et ça, c'est tout d'abord le pardon de tous mes péchés, passés, présents et futurs. En recevant Jésus, je suis complètement libéré de toute condamnation par Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Il est mon ami, je suis son enfant et je peux marcher dans cette confiance que mes péchés sont pardonnés. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Oui, OK. Alors, le pardon et le salut inclut d'autres choses. Puis c'est notre frère Michel Houle qui va développer ce volet dans 2 semaines. Alors, venez nombreux pour entendre parler de Christ Sauveur dans 2 semaines. Maintenant, à droite, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un enfant qui aimerait répondre ou un jeune? Oui. Un verre. Oui. On dirait que c'est une coupe de vin, mais en fait, c'est pas ça. Ça ressemble à un verre, mais en fait, c'est un lavoir. Alors, c'est un endroit pour se laver. Peut-être qu'il ressemble à celui qui était dans le temple de Jérusalem. Et dedans, il y a de l'eau pure. Et c'est le symbole du fait que quand nous venons à Christ, il nous lave, il fait de nous des personnes pures pour servir Dieu dans la pureté. Il nous sanctifie. Donc, le deuxième symbole, les enfants, c'est Jésus-Christ, notre sanctificateur. Parce qu'une question s'est toujours posée. OK, Dieu me pardonne, je suis sauvé, mais est-ce que c'est possible pour moi de vivre une vie qui plaît à Dieu? Ou est-ce que, comme je suis pécheur et imparfait, ça ne sert à rien que j'essaye de plaire à Dieu parce que Je suis pécheur. Eh bien non, parce que Jésus m'apporte sa sainteté, me la donne. Ah oui? Ah ben oui, cool, merci. Et, alors, Jésus, notre sanctificateur, et c'est notre frère Richard qui va nous aider à mieux comprendre cette réalité si importante de notre vie de tous les jours. Ça va être le 31 juillet, ça c'est dans 4 semaines. Le troisième volet, bien, ça, c'est à gauche. Bon, y a-tu un jeune qui aimerait nous dire qu'est-ce que c'est, cet objet qui est à gauche? Vous pouvez essayer de deviner, là. Oui, oui. Un pichet. Oui, alors, évidemment, un pichet, on peut s'en servir pour toutes sortes de choses. On peut s'en servir pour la sauce qui va sur le poulet au Saint-Hubert. On peut s'en servir pour la limonade. Dans notre culture, mais dans la culture biblique, c'est le pichet qui contient l'huile de la bénédiction, l'huile de la guérison. Et c'est pour ça que le pichet bibliquement, c'est Jésus notre guérisseur. Jésus notre guérisseur, ça veut dire qu'en recevant Christ, la vie de son corps ressuscité, bien, on y est connecté. Et il agit dans notre corps. Il est capable de nous donner la force physique et même la guérison physique pour accomplir la tâche qu'il nous donne aujourd'hui. Et c'est notre frère Benoît qui va développer ce sujet. Benoît qui est médecin, je crois qu'il est avec les enfants ce matin, qui va développer ce sujet pour nous dans 3 semaines. Vous voyez qu'on va en apprendre des choses cet été. La dernière, c'est en bas, il y a un symbole. C'est assez facile, là. Qui aimerait répondre? Oui, vas-y, Bérénice. Couronne. Une couronne. C'est ça. Ton prénom, c'est Bérénice. C'est ça. Merci, Bérénice. Une couronne. Jésus-Christ est aussi notre roi. Donc, dans notre culture, peut-être qu'on se dit, bien, un roi, une reine, c'est encombrant. On n'est pas habitué à avoir un roi, mais dans la culture biblique dans laquelle nous entrons quand on est en Christ, avoir un roi, c'est absolument extraordinaire parce que notre roi nous amène vers un but, vers un royaume, une façon de vivre qui est gérée par sa justice à lui. Donc, Jésus-Christ, notre roi, c'est aussi une espérance future d'un nouveau pays, d'un nouveau monde dans lequel nous allons vivre tellement heureux. Moi, je vais vous en parler de ce thème-là dans le premier dimanche du mois d'août. Jésus-Christ, notre roi qui revient. Allô? Oui, c'est parce qu'il n'est pas encore revenu. Alors, il ne veut pas se manifester. Mais bon. Il ne veut pas. Bon, mais Jésus nous dit, veillez, parce que vous ne savez pas quand je vais revenir. OK? Alors, maintenant, nous allons... Ah, voilà. Oui, parfait. OK, c'est beau? On passe à... reste là. Maintenant, dans le dernier volet de mon message, nous allons parler d'Albert Simpson, qui est un des fondateurs du mouvement et qui est peut-être le plus célèbre. Alors, les enfants, vous pouvez mettre des choses que vous entendez sur votre feuille sur le monsieur là, dont on a vu la photo tantôt, ce monsieur-là. Donc, Il a vécu au 19e siècle. Vous voyez, il s'habillait autrement à cette époque-là. Mais c'est le même Jésus, c'est le même Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous l'étudions. On va... Voilà. Alors, il est né en 1843 et il est mort en 1919. C'était un prédicateur. C'était un Canadien. Il est né à l'île du Prince-Édouard. Et il a commencé son ministère très jeune. Il était adolescent. Il a commencé dans l'église presbytérienne et il est devenu pasteur de l'église presbytérienne. Il a été pasteur dans des églises au Canada et aux États-Unis. Et il a été connu pour un ministère pionnier très important dans les quartiers pauvres de New York. Et pour résumer, on peut dire que son parcours est marqué par le fait qu'il a eu la victoire sur sa fragilité personnelle. Il a eu la victoire spirituelle par rapport à sa fragilité personnelle. Une victoire acquise grâce à l'Évangile dans sa plénitude. Parce qu'à chaque moment de crise dans sa vie où il n'en pouvait plus, il ne pouvait plus avancer, il s'est tourné vers la vie de Christ en lui. Il a découvert une nouvelle richesse que la présence de Christ lui donnait et il a pu continuer, il a pu surmonter. Ça a tellement imbibé son enseignement, cette idée de l'Évangile dans sa plénitude, qu'un nouveau mouvement missionnaire est né, l'Alliance chrétienne et missionnaire, dont nous sommes les héritiers. Un mouvement très axé sur la mission. Parce que quand Jésus nous habite, on va vers les autres. C'est simple. C'est comme ça que Jésus était. C'est en fait comme ça que Dieu est. Le Dieu trinitaire qui existe depuis même avant la création, ça explose d'amour à l'intérieur de ce Dieu-là. Il ne pouvait faire autrement que créer et ensuite s'incarner dans sa création. Est-ce que ce n'est pas un Dieu merveilleux? Un Dieu qui vient parmi nous. Et ceux qui le reçoivent, ils vont en mission vers leurs frères, vers leurs sœurs. Amen. La semaine prochaine, nous allons justement commencer l'exploration de l'aspect mission de notre famille d'Église. Et c'est Madame Laurelie Jesperson Wismer qui va nous apporter une explication de la vision missionnaire. Elle est elle-même missionnaire Alliance au Québec. Son père l'était aussi. Son mari aussi. Et puis, je crois que ça va vraiment être intéressant la semaine prochaine. Alors, venez nombreux. Mais revenons à notre ami Albert Simpson. Je vous ai dit qu'il a fait des découvertes dans ses moments de détresse. Et la plus grosse découverte, ou tout au moins la plus connue, c'est durant sa vingtaine. C'est une question de guérison physique. C'est qu'il était vraiment impliqué dans un ministère pastoral exigeant et son corps a craqué. Il s'est rendu compte qu'il avait un problème cardiaque et il pensait qu'il devait abandonner. Plusieurs fois, il a pensé qu'il allait tomber mort du haut de la chaire pendant qu'il prêchait et il s'est tourné vers Christ. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Mon corps n'est pas capable de faire le ministère que j'ai senti dans le passé que tu m'appelais à faire. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Bien, voici, ce sont ses paroles lui-même que j'ai trouvées dans un de ses sermons. Alors, Albert écrit ici, « Quand j'ai enfin été amené à enterrer ma dogmatique, c'est-à-dire j'ai enterré mes anciennes croyances, rigide, on va le dire comme ça, le Seigneur a de nouveau murmuré à mon oreille le secret bien simple, Christ en toi. Et dès ce moment, je l'ai reçu lui-même pour mon corps, comme je l'avais reçu pour mon âme. J'en ai retiré tant de force et de bien-être que le travail est devenu un véritable plaisir. » Il parle de ce travail pastoral exigeant, qui est jamais fini, qui est... Écoutez, moi, hier soir, je terminais mon sermon et je me dis, je vais pouvoir relaxer avec ma femme. On va jaser, on va profiter du beau temps. J'appelle, je reçois un appel de l'église Fairview. Problème avec le bâtiment. On doit changer la date du baptême. Il a fallu que je continue le travail. Mais moi, j'ai rien vécu encore. À cette époque-là, les pasteurs, ils travaillaient toute la nuit. Et peut-être qu'il y en a parmi vous que dans votre travail séculier, vous travaillez toute la nuit. Et je vous admire, Christ est le même pour vous. Christ peut vous donner la force. Christ va vous donner la force de faire ce que vous avez à faire. Je continue la lecture. Il l'a reçu pour son corps. Et son travail est devenu un véritable plaisir. Le Seigneur, ici là, le Seigneur ne s'est pas borné à ôter mes souffrances. Cela a été plus qu'une simple guérison. Il s'est donné lui-même de telle façon que j'ai perdu la conscience pénible de mes organes. Alors, il y a quelque chose d'ambigu ici. Est-ce que ces organes ont arrêté de souffrir ou pas? Peut-être que la guérison, c'est que ces organes souffraient, mais que Dieu lui a enlevé la douleur. Peut-être que, un petit peu comme Paul qui a demandé à Dieu, « Seigneur, tu m'as donné un apostolat, enlève de moi l'écharde qui est dans ma chair, cette souffrance que j'ai. » Et Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Vous vous souvenez de cet épisode, ceux qui ont lu 2 Corinthiens? Et c'est dans la faiblesse que tu vas me servir, mais avec ma force de pouvoir faire tout ce que je te demande de faire. Et donc, ce que je retiens de ceci, c'est que ce n'est pas de la magie. Ce que nous annonçons comme guérison miraculeuse des maladies physiques, ce n'est pas que Dieu va automatiquement et magiquement guérir toutes les maladies qu'on lui demande de guérir. Bien que son cœur de compassion est capable absolument de le faire. Mais je dirais, c'est plutôt, accepte d'abord Christ dans ta vie et accepte de le laisser travailler par toi, d'accepter les tâches généreuses qu'il te demande de faire jour après jour, d'être Christ dans ton monde. Et si tu as des faiblesses physiques, si tu as des maladies, remets-les-lui, il va te donner la force de faire le travail qu'il te demande de faire. Amen? OK, donc, c'est mobilise-toi, fonce, et puis tu vas voir des guérisons divines. C'est ce que je comprends de mon frère Albert Simpson, qui l'a vécu et qui le prêche. Je comprends qu'il y en a plusieurs qui luttent parce qu'ils souffrent physiquement depuis longtemps. Nous allons continuer à prier avec toi, mon frère, ma sœur, pour ta guérison. Mais sache que pour aujourd'hui, Dieu va te donner la force physique pour ta tâche. Tout ça, j'invite l'Oasis à accepter ce défi, à une foi, j'allais dire, virile, une foi, mais c'est pour les femmes autant que pour les hommes, une foi audacieuse, une foi courageuse, une foi qui dit, présent capitaine Jésus, je suis là, je te sers. Hein? J'imagine mon frère Albert Simpson n'était pas le genre d'ancien qui appelait son pasteur. Je ne vise pas les anciens en particulier. D'ailleurs, je ne les vois pas. On va parler des anciens. Un ancien qui dit, « Pasteur, je sais, il faut que j'enseigne une classe d'école du dimanche ce matin, mais j'ai eu une veillée pas mal tard hier, une longue semaine. Je suis fatigué, je ne viendrai pas. Pourrais-tu me faire remplacer? Je suis fatigué dans mon corps. » Je comprends que des fois on souffre puis on est vraiment fatigué, mais j'ai l'impression que je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, Albert, il serait le genre de chrétien qui appellerait son pasteur pour dire, « Pasteur, je suis vraiment exténué, mais j'ai une tâche à faire. Peux-tu prier avec moi que Jésus-Christ me donne sa force pour miraculeusement surmonter l'épuisement que je ressens? Amen? Ce n'est pas une loi que je dis là, ben je ne veux pas vous voir tomber mort de fatigue, mais je crois qu'on a besoin d'entendre de nos frères du passé un peu cette foi musclée là, cette foi d'adulte qui fonce malgré la souffrance physique. Voilà, nous parlons. Ça, c'est Albert Simpson. Et, mais, oups, c'est fini, là. Nous sommes arrivés à la fin. Pour conclure, bien, je vous rappelle ce qu'on a dit. L'Évangile dans sa plénitude, c'est recevoir Christ entier et avec lui tous les bienfaits. Et nous allons les découvrir un par un.